Vous écoutez
RMC. RMC, 18h-20h, Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h tout pile sur RMC, bonsoir à tous, bienvenue dans Roten sans flamme. On est là, on est bien, on repart pour une magnifique semaine européenne. Et on va vibrer tout au long de la semaine, on joue la qualif pour la finale à Ligue des Champions, pour la finale de la Conference League. Vraiment, beaucoup d'actu. On va se régaler, mais demain on sera en mode Ligue des Champions. Mais aujourd'hui on est en mode Ligue 1 parce qu'il s'est encore passé beaucoup, beaucoup de choses. Donc soyez là. Et puis pas que de la Ligue 1, vous allez voir. On a aussi un peu de football étranger. Bien sûr qu'on va avoir Kylian Mbappé, vous inquiétez pas. On va en parler aussi dans l'émission avec une superbe équipe autour de moi. Benoît Boutron qui est tout bronzé. Salut Benoît.
Salut Jérôme, salut à tous.
Ça va Benoît?
Ça va.
Bien reposé.
Ça fait quelque chose.
Ah ouais, bon, on embrasse François Pinet.
Ouais, tout à fait. François qui a été excellent.
Il a dormi tout le week-end apparemment. Ouais. Sa femme elle m'a dit, il était apparemment carbo.
Ouais. J'ai vu passer des avis, j'ai vu que Dugas comparait Olivier à la Joconde, tout ça. Je vois, et tant que je rentre, ouais. Qu'est-ce qu'il fait?
Bah, il est là. Il est là. Ah, Christophe Dugarry. Ah, salut ouais. Dugas.
On va pouvoir régler nos comptes. Ah, salut Benoît. Salut Jérôme. Bonsoir à tous les amis.
La Joconde,
il est là. Écoute, écoute. Et il y en a un autre. Vous l'entendez avec son accent marseillais. Et oui, il l'a pas perdu malgré les mauvais résultats de l'OM. C'est Eric Dimeco. Salut Eric.
Salut Eric.
Salut Jérôme. Salut Dugas. Salut Benoît. Salut à tous. Il m'a qu'aurait pu qu'il me fasse perdre l'accent quand même.
Ah bah des fois.
Déjà qu'il me fait, il me faut perdre déjà la foi.
Ouais. Donc ils te font perdre la gueule, ouais.
Attention, samedi, grosse soirée à la Casa Dimeco, j'ai l'impression.
Ah non, grosse journée. Bonjour. Il y avait ça. On est obligé de solidifier toutes les tables et toutes les chaises.
Samedi,
les sangliers. Les sangliers débarquent à Marseille, Toulouse, Stade Vélodrome. Donc on va être envahi à la Casa Dimeco de sangliers. On les embrasse.
Mais ça fait deux grosses soirées dans la semaine. Une grosse soirée mercredi aussi à la Casa Dimeco.
Tous les meilleurs promos. Je suis en train de réfléchir à offrir le champagne à tout le restaurant qui a de qualification.
Excellent,
Bayern.
Bah oui. Avec
et
la musique du
Bayern.
En tout cas,
bon, la Ligue des Champions, on aura le temps d'en parler cette semaine, mais on va se concentrer sur ce qui s'est passé le week-end dernier en Ligue 1. Roten se chauffe à 19h. Est-ce que la saison de l'Olympique Lyonnais est miraculeuse? Lyon a fait un immense pas vers la Ligue des Champions. Incroyable. Les Lyonnais n'ont plus disputé la compétition depuis la saison 2019-2020. Hier, victoire contre Rennes et 2 points d'avance sur la 4e place à 2 journées de la fin. Rassurez-vous, Dugas, Eric, Roten sélectionneur à 19h30, l'avant-dernière liste de Jérôme Roten.
Ça nous avait manqué.
Avant la liste définitive.
J'ai jamais. C'est la première fois que je compte les jours avant le début de la Coupe du Monde.
Ah bah tu vois,
que ça finisse cette blague-là.
38 jours avant la Coupe du Monde, l'évolution de la liste de Jérôme et puis cette question, ce débat ce soir, on vous attend d'ailleurs au 32-16. Ousmane Dembélé, Michael Olise, qui est le plus fort actuellement? Parce que nous sommes donc à 2 jours de la demi-finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern et le PSG. À 18h45, Jérôme vous l'a dit, on va partir en Espagne. On sera avec Pablo Polo, journaliste à Marca, pour revenir sur toute la tension autour de Kylian Mbappé, cette escapade en Sardaigne qui a du mal à passer auprès des supporters du Real et auprès du vestiaire. Pablo Polo nous dira tout. Et puis on parlera de l'OM, Eric, désolé. 18h30, le procès de Mason Greenwood et de son manque d'investissement. Encore un match très compliqué pour l'anglais samedi après-midi, pour lui et pour l'OM tout entier, d'ailleurs à 18h03 sur RMC. On y va, on parle des Marseillais parce qu'elle est interminable cette saison pour Eric Dimeco.
Il est prisonnier. D'un jour sans fin.
Seule analyse qu'on peut avoir, c'est qu'il n'y a rien dans notre match.
J'aimerais pas vivre aujourd'hui, quoi, si tu veux.
Je ne fais que revivre le même jour encore et encore.
C'est la mise en retrait, le but en tête. Le voilà, le but en tête, attendu par tout un peuple jaune et vert.
Au début, c'était vraiment l'angoisse.
Comme il n'y a rien, on a ce qu'on mérite aujourd'hui.
Kamela pour le deuxième but.
Je vais mourir. Je vais mourir.
Mais à présent.
Si je les protège aujourd'hui, je passe pour un menteur.
Il explore toutes les possibilités.
Mais donne le nom.
Et apprend à vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain.
Ablin qui rentre dans la surface de réparation du numéro d'Ablin. Le but d'Ablin,
incroyable. Arrêtez de m'énerver avec ça.
Arrêtez de m'énerver avec ça.
Non, elle est longue cette saison pour Eric, mon Dieu.
Non,
Bon, non, pas que pour moi. Hein. Bon.
Ouais. Au moins, t'as pas bloqué ton samedi après-midi pour regarder Nantes-Marseille, Eric.
Un peu plus.
T'as pas gâché le week-end. Quoi.
Ah non, moi je l'ai dit depuis la dernière fois, je ne prévois plus mon week-end en fonction des matchs de l'OM. J'avais m'échoui.
Tu ne regardes même plus les matchs. Ça va loin, là, Eric.
Voilà. J'ai fait pour m'échoui, on m'a donné le résultat.
Tu n'as pas regardé en direct cette défaite nette et sans bavure, 3-0 à la Beaujoire face à des Nantais avant-dernier de Ligue 1 qui n'avait plus gagné depuis le 22 février. Marseille est donc définitivement écarté de la course au podium. Terrible bilan pour Habib Bey. 5 défaites en 10 matchs de championnat depuis son arrivée. C'est le pire bilan pour un coach marseillais depuis 1984. Écoutez justement Habib Bey qui a chargé ses joueurs après la défaite.
Ce que je leur ai dit, c'est que là, je pouvais pas les protéger. Que si je les protège aujourd'hui, je passe pour un menteur. Et qu'à partir du moment où tout le monde a vu ce match-là, tout le monde a vu les comportements, tout le monde a vu les efforts, tout le monde a vu les prestations. Qu'à partir du moment où on n'a pas cette notion d'engagement dans un match comme celui-ci, à la mi-temps, je peux sortir 80% de l'effectif. Et après, je vous cache pas qu'on voulait agir. Mettre des jeunes dans cette situation-là, pour moi, c'est pas leur rendre service. Il fallait aussi qu'on se rende compte sur le terrain de ce qu'on vivait, que ça puisse impacter. Parce que quand on est l'Olympique de Marseille, quand on porte le maillot de l'Olympique de Marseille, et quand on en est l'entraîneur, c'est ce qui est très difficile à accepter, de voir ce visage-là de l'équipe.
Fabrice Hawkins, journaliste à RMC Sport, le roi des infos à RMC Sport, nous rejoint. Salut Fabrice.
Salut les gars.
Salut Fab. Quel est l'état du vestiaire marseillais après cette nouvelle déroute?
Bon, la sensation qui règne, c'est qu'à l'OM, sans surprise, les joueurs ont lâché. Hein. C'est vraiment la sensation ambiante. Pas d'éclat de voix ou de prise de bec dans le vestiaire après cette nouvelle déroute face à Nantes. Dans le vestiaire, les joueurs étaient comme résignés. L'ambiance est toujours aussi pesante. Dans le groupe, on se rejette la faute. Plusieurs joueurs sont pointés du doigt. Pierre-Emile Højbjerg, Benjamin Pavard ou encore Mason Greenwood qui, d'après les habitués de la commanderie, ne fait même plus semblant de s'intéresser au sort du club. Imad Abdelli ne rejouera plus de la saison avec l'OM. Hein, décision prise par Habib Bey. Son comportement, son rendement, ses rentrées également déçoivent énormément. Les dirigeants sont irrités et aussi de constater que les joueurs sont capables de se battre à domicile où la pression est grande hein, dans le stade Vélodrome face à Nice par exemple, puis de sombrer à Nantes. Le programme des prochains jours de l'OM est tout aussi imprévisible que les performances des Phocéens. Les joueurs dorment au centre d'entraînement ce soir et ne savent pas quand va se terminer cette mise au vert.
Merci Fabrice, c'est la une de Rotten sans flamme ce soir. Les joueurs de l'OM ont-ils des circonstances atténuantes? 32-16 pour en débattre avec Jérôme, avec Duga et avec Eric. Jérôme, nouvelle déroute, nouveau désastre, mais est-ce que les joueurs ont des circonstances atténuantes alors?
Pour moi, oui, ils ont des circonstances atténuantes. Quand on voit l'état de ce club, l'état des lieux. Alors, j'ai l'impression que toutes les semaines, on fait un état des lieux de ce qui s'est passé tout au long de l'année. Donc, je vais essayer de pas me répéter, même si c'est pas facile, parce que j'ai l'impression que les lundis se suivent et se ressemblent dans l'analyse. Et on peut fracasser.
Voilà, c'est pire que tout.
Et on peut, non, mais on peut fracasser tout. C'est pire. Non, c'est
3-0
pas,
à Nantes.
Non, mais c'est pas pire que la claque reçue contre Bruges. C'est pas pire que l'élimination en Coupe de France.
3-0 à
c'est
Nantes.
C'est pas pire que le bilan depuis l'arrivée d'Habib Bey, comme c'était pire aussi la période avec De Zerbi, parce que tout le monde en avait ras la casquette, si tu veux, de voir ce qu'il proposait et entre ce qu'il demandait et ce qu'il nous vendait et ce qu'on voyait sur le terrain. Donc en fait, je sais pas qu'est-ce qui est le pire. Le pire au mois d'août avec l'affaire Rabiot, le sortir. Le pire au mois d'août fin du mercato d'arriver l'arrivée de 5-6 joueurs sur le dernier jour du mercato et on nous a expliqué que c'était génial, c'était fantastique quand il y avait un coup extraordinaire réussi par Mehdi Benatia et ses équipes. Bon bah écoute, et de montrer autant d'instabilité avec 25 mouvements encore au mercato d'été alors que tu venais de finir deuxième du championnat et que tout le monde disait ça y est, ils veulent se rapprocher du PSG, alors pas les dépasser, on est d'accord, par rapport au budget, par rapport à plein de choses, parce que le PSG est champion d'Europe, la meilleure équipe d'Europe, mais ils voulaient se rattraper rattraper un petit peu le retard et recoller et pas finir à 20 points, à plus de 20 points du Paris Saint-Germain. Bon, bah, à l'arrivée, c'est claque sur claque sur claque. En effet, quand tu prends très vite des analyses où tu penches d'un côté plutôt que l'autre, bah, tu te mouilles. Hein, tu vois, tu te mouilles, mais pourquoi on prend des analyses? Et il y en a qui prennent le contre-pied. Attention, moi je respecte aussi ça. Ça veut pas dire que ces mecs-là se sont trompés. Mais nous, on a été des joueurs des anciens joueurs. C'est pour ça qu'on est là et qu'on parle de foot. J'ai l'impression quand même que quand tu sens un vestiaire et tu t'essayes de te mettre à la place des joueurs, de la pression qu'on a pu ressentir à un certain niveau dans certains clubs qui ressemblent. Alors Duga et Eric, c'est plus facile parce qu'ils ont joué à l'OM, d'accord. Moi, j'ai joué dans un club qui s'appelle le Paris Saint-Germain dans des périodes qui étaient pas simples aussi, et forcément, t'as des pressions qui sont bien supérieures à tous les autres clubs. On est d'accord. Donc, il y a un impact sur les joueurs, et c'est pour ça que je te dis qu'il y a des circonstances atténuantes, parce que quand tu prends une première claque, une deuxième claque, une troisième claque, tu changes d'entraîneur, tu changes de président, t'as ton directeur sportif qui annonce qu'il part, et puis en fait il part pas, et puis après on te recrute encore 3-4 joueurs. Je rigole, je suis désolé, parce que quand je vois les 3-4 joueurs recrutés au mercato d'hiver, je me dis mais
on s'est battu pour aller chercher,
mais c'est génial en fait, c'est génial, la vision du foot. Mais là encore une fois, c'est bien de le reconnaître que tu t'es trompé, mais le problème c'est que t'es rattrapé par certains dirigeants ou certains à l'Olympique de Marseille qui ont des postes importants et qui ont tellement d'ego qu'ils reconnaîtront jamais qu'ils se sont trompés. Ça sera toujours de la faute des joueurs. Et c'est pour ça que je te dis que je trouve des circonstances atténuantes aux joueurs et dans leurs attitudes. Quand tu rentres sur un terrain, quel que soit l'état footballistique du joueur en question, quand ils rentrent à Nantes, les joueurs marseillais, d'accord, il y en a pas un, j'en suis persuadé, pourtant je leur ai pas parlé, il y en a pas un qui n'a pas envie d'être bon et de faire gagner son équipe. Le problème, c'est qu'il n'y a plus de structure. Donc déjà, c'est une petite circonstance atténuante. Après, c'est individuellement. Certains vont dire, oui, mais il a lâché le coach, il a pas envie. Mais tu crois, même Greenwood, on parlait à 18h30, mais tu peux parler des autres joueurs qui ont été catastrophiques sur le match à Nantes, comme ils l'ont été sur le dernier match à domicile, comme ils ont été quand t'as pris des claques à Bruges et tout ça. Bien sûr qu'ils ont été catastrophiques. Mais en aucun cas, si tu veux, je remets en doute leur conscience professionnelle. Les mecs, ils ont envie de bien faire. Le problème, c'est que déjà, il n'y a pas d'entente dans le club et ils sont pas responsables de ça, d'avoir formé ce groupe de joueurs. Parce que quand tu es un grand directeur sportif ou avec ton équipe dirigeante, parce qu'apparemment, il y en a plusieurs qui décident à Marseille là-dedans, quand tu crées un groupe de joueurs au début de l'année, c'est aussi pour qu'ils s'entendent, bien sûr, sur le terrain, qui soit en totale adéquation avec ce que le coach va leur demander, d'accord, et dans le respect, plus après essayer d'évoluer ensemble. Mais le rapport que tu as avec certains dans le vestiaire est très important, surtout dans ces clubs à haute pression, d'accord, parce que quand c'est dur, tu te resserres, tu te ressoudes, d'accord. Sauf le problème, c'est que ces mecs-là, ils s'entendent pas, et c'est pas la première semaine qu'on sent ça. Depuis le début de l'année, on le sent. Quand tu prends claque sur claque. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose. C'est une première circonstance atténuante. Et après, la deuxième, je te dis, quand tu rentres sur le terrain, que tu viens pour préparer un grand match, il faut déjà, dans la semaine ou sur les entraînements quelques jours avant, sentir que de la sérénité, surtout dans ces clubs à haute pression. Si quand t'arrives à la commanderie ou en stage, parce que maintenant ils partent en stage partout, dans toute l'Europe. Donc, quand t'arrives le matin, tu te lèves, t'arrives au terrain d'entraînement, il faut quand même ressentir un plaisir. Ça reste un métier, passion, ouais. Passion.
C'est un sport.
Quand tu viens à reculons, parce que t'as pas envie de partager certains moments, parce que tu peux pas t'entendre avec Pierre-Paul Jacques dans le vestiaire, que l'entraîneur, tu le regardes, tu dis mais en quoi je vais le respecter, sachant que nous, il nous respecte pas. Le directeur sportif, il nous a démonté tout au long de l'année. C'est chacun son tour. Le président, pareil. Lui, ok, pareil. Donc en fait, tu viens reculons. Mais c'est comme ça. C'est, ouais. Tu sais, juste, et là je donne la parole à Eric et Duga. Moi, je suis arrivé au Paris Saint-Germain. Alors, c'était dans un autre monde, c'était il y a 22 ans, d'accord. J'arrivais de Monaco, la finale de la Ligue des Champions. D'accord. Bon, j'avais des propositions. J'ai réalisé mon rêve en signant au PSG. Mon rêve, Benoît, je te le dis. Donc quand j'ai joué, j'ai mis le maillot du PSG. C'était une fierté incroyable. En six mois. Bon, après, je me suis blessé. Mais en six mois, Vaïdé Lodzik, il m'avait écuré. Je venais à reculons au camp des loges.
Je voulais plus y aller.
Non, mais je venais à reculons parce que je me disais, mais putain, je passe un mauvais moment. Et j'étais pas le seul. On était tous comme ça. Mais forcément, t'es obligé de trouver.
Donc, il y a des circonstances à tenir.
Mais c'est exactement ça. C'est ce que je pense, moi. Ça, c'est mon expérience qui dit ça. Après, ça veut pas dire que j'ai la science infuse,
Et
que j'ai raison,
Est-ce qu'il y en a des circonstances atténuantes pour les joueurs?
Aucune. Absolument aucune, mais je pense qu'à un moment ou un autre, il va falloir que tout le monde passe à la caisse, quoi. Il va falloir que chacun prenne ses responsabilités. Joueurs, bien évidemment, entraîneurs, dirigeants, tous ceux qui ont pris les décisions qui ont amené au fiasco d'aujourd'hui, qui se sont exprimés depuis des mois et des mois et des mois, qui ont essayé des choses, qui ont raté des choses, mais il va falloir au bout d'un moment passer à la caisse, parce que là, c'est une catastrophe. C'est encore pire que ce qu'on pouvait imaginer dans les scénarios les plus terribles. Il y a eu cette élimination en Ligue des Champions où tu as deux matchs pour prendre un point, tu es incapable, tu prends deux raclées en étant ridicule face à Liverpool et face à Bruges. Donc déjà te faire éliminer comme ça, déjà tu l'as plus qu'en travers. En plus le scénario est tellement cruel, le football est tellement cruel qu'il te manque plus qu'un but et que ça se joue dans les dernières secondes. C'est dire si le dieu du football est venu te chercher et te dire voilà, toi je vais te mettre une gifle, te remettre une autre gifle encore, tellement tu travailles mal. Donc à un moment là, et là tu te dis, on est en train encore de faire des débats il y a quelques semaines de ça, à se dire est-ce que l'OM peut se retrouver quatrième ? Et là, c'était déjà le scénario catastrophe.
Catastrophe. Là, maintenant, c'est septième.
Et là, maintenant, c'est septième.
On n'a même pas de Coupe d'Europe, si ça se trouve.
Donc là, aujourd'hui, dire que les joueurs ont des circonstances atténuantes, moi, j'étais contre De Zerbi. Pour moi, De Zerbi, il n'avait pas le niveau pour entraîner l'OM. Il s'est perdu.
Non, mais ça, on est d'accord.
Moi, il m'a saoulé. Une fois que De Zerbi est parti, les joueurs sont exposés. Et les joueurs sont en première ligne. Alors là, on peut toujours dire que c'est la faute à Abibay, c'est la faute à...
Il a sa part de responsabilité aussi.
Bien évidemment. Mais quand t'as le match hier, je sais pas si tu l'as regardé le match.
Si, j'ai regardé.
Excuse-moi, je vais te prendre deux images. Greenwood, qui lève les bras, qui marche, qui court, il a pas envie, qui regarde à droite, à gauche, qui fait n'importe quoi, qui a pas envie, qui a fait 3 mètres. Et quand je vois le troisième but encaissé, quand je vois Medina, qui vient nous expliquer le football, ce que c'est la mentalité, qu'il a besoin de mecs qui vont au combat, tout ça. Et qui lève les bras, tu l'as vu quand le petit dribble là, t'as lui et voilà Blin et Balerdi, ils lèvent les bras les deux, les mecs ils percent dans l'axe comme ça et ils lèvent les bras tous les deux, ils chef de garde, tu vois, ils le laissent passer, le petit marque un but magnifique, mais après comment tu peux donner une leçon, ouvrir ta pomme et ta fraise en conférence de presse ou ailleurs et dire que toi t'as l'état d'esprit dans le vestiaire, les gens t'écoutent, mais mec, l'exemple tu dois le montrer là. C'est là qu'il
faut. Parce qu'on leur demande peut-être.
Mais on leur demande quoi? De lever les bras?
Non, de venir parler et donner des leçons.
Non, mais moi, Jérôme, tu parlais tout à l'heure de ta carrière. Je veux pas faire ce que j'ai pas envie de faire.
Je suis d'accord. Mais...
Voilà, donc c'est tout bidon. Non, aujourd'hui, les joueurs, avec le match qu'ils ont fait hier, où la moitié de l'équipe a lâché, qu'est-ce que tu veux leur trouver des circonstances atténuantes?
Mais justement, c'est que c'est la faute. Pour être vrai, du gars.
Mais non, justement.
C'est un climat d'ensemble.
Mais bien évidemment que le climat, il est pas bon, il est délétère. Mais c'est l'excuse que tu dois te trouver et que tu dois sentir. C'est quand même ton métier. T'es quand même sur le terrain. C'est toi qui y es. Tu veux pas chaque fois qu'il y a un climat qui ne te convient pas dire ah ben non moi le climat il est pas bon donc j'ai pas envie de courir, je cours pas. Non c'est pas c'est pas trop gros, c'est justement parce que pourquoi à chaque fois qu'il y a un truc qui est énorme on dit mais c'est trop gros pour que ce soit vrai.
Mais parce qu'ils sont toujours si mauvais, tu te rends compte du niveau des joueurs.
Mais ils sont pas mauvais, ils ne courent pas. Ils ne courent pas, mais t'as vu les Nantais, ils ont fait 2 matchs dans la saison où ils ont juste couru plus que l'OM, ça suffit pour gagner. Ils ne courent pas, je t'ai dit encore les statistiques de la semaine dernière sur le match qu'ils ont joué à domicile. Qui c'est qui courait dans cette équipe? Personne ne court, personne n'a envie. Donc, au bout d'un moment, la réalité, elle est là. Pourquoi c'est trop gros? C'est juste la réalité. Tu ouvres tes yeux, tu allumes ta télé, tu montes le son ou pas, si tu veux, et tu le vois. Tu vois la différence avec des jaunes. C'est le maillot, il est différent. T'as des jaunes qui courent et t'as des blancs qui marchent.
Du gars, c'est l'analyse assez simpliste, ça.
Mais c'est tellement vrai. Oui, mais parce que c'est la base. À un moment, il faut revenir à quelque chose de simple.
Oui, mais tu vois, ça veut dire que les gens qui te disent à chaque fois dans l'analyse et qui vont, ils vont dire, ah ouais, mais ils mouillent pas le maillot. Pour moi,
c'est pas rien à voir.
Un peu
de supporters, mais non, c'est pas que ça. Moi, quand je dis de courir, c'est des courses à haute intensité. C'est quand tu vas avec un pressing, tu vas avec intention. Quand t'as des en contre un, tu mets le coude, tu mets l'épaule. C'est ça courir, ouais, c'est mettre de la lance, c'est mettre de l'énergie.
Alors,
donc vous pensez que le problème aujourd'hui du match de face à Nantes, le problème c'est un problème de structure. Comme il n'y avait pas de structure, les mecs ils courent.
Le problème c'est que tu payes toutes tes erreurs de la saison.
Je pense que depuis quelques semaines,
c'est pour ça que tout le monde va devoir passer à la caisse. On est bien d'accord. Tout le monde doit responsabilité. Mais là aujourd'hui la situation du club, t'as 11 joueurs, tu te regardes dans le vestiaire, t'es dans le vestiaire, tu fais ce genre de match là et c'est la faute à Abibay, à Benatia, ces déclarations de machin,
c'est une faute collective.
Moi je pense que c'est un ensemble de choses, t'as raison. Moi je dis pas que les joueurs sont pas responsables parce que on était sur le terrain et c'est nous qui faisons les résultats. En effet, c'est les joueurs qui te font gagner les matchs ou qui te les font perdre, ça on est d'accord. C'est pas l'entraîneur, c'est pas le directeur sportif ou le président.
Tu peux pas prendre 3 buts comme ça à Nantes sur un match décisif.
Nantes qui gagnait pas un match.
Oui, mais tu peux pas. On peut pas dire à chaque fois. Alors, et tu l'as dit. Il y a certains joueurs. Tu prends l'exemple du match de Nice. le match de Nice quand ils font match nul. Ouais. Franchement, ils méritent de le gagner ce match-là, ouais. Marseille. Oui. Oui, non mais c'est vrai. Donc ça veut dire que là, ils avaient envie de courir. Donc c'est bien les joueurs. Et puis là, à Nantes, ils ont plus envie de courir. Moi, je pense que c'est un ensemble de choses. C'est un ras-le-bol sur beaucoup de choses et surtout une fatigue. C'est Flo Thauvin hier. Je sais pas si tu l'as écouté, ton gars, mais tu en parlais.
Mais au salaire que t'as, avec la chance que t'as de faire ce métier, comment tu peux dire j'en ai ras-le-bol?
Du gars,
tu peux pas ça.
Du gars, t'as oublié. Je pense que t'as oublié certains contextes. Et toi, tu l'a connu aussi à Marseille.
Mais si t'as un peu de respect pour les gens, tu l'évoques même pas, tu cours, tu fais le minimum d'amour propre.
Non, mais ça,
de respect pour les gens.
Mais oui, la légende de l'OM.
Ça, je suis d'accord, mais ça, c'est pas l'ensemble des joueurs qui est comme ça.
Vas-y, Eric,
ça, je suis d'accord sur des cas particuliers du gars, mais pas sur les combien il y en a qu'on jouait 16 joueurs qui ont joué à Nantes. Les 16 ont pas été juste un problème d'état d'esprit et de courir.
Eric.
Ah, ouais. Tu as vu que je me bats pas pour prendre la parole. Alors parler de l'OM en ce moment, tu as remarqué. Hein. Mais non, mais c'est surtout qu'on a tellement tout dit. Donc moi, vous connaissez mon propos. Principaux responsables pour moi, toujours les joueurs. Quand tu es sur un terrain, que tu fais ce métier-là merveilleux, que tu as la chance de jouer à l'OM, que tu as un certain niveau du coup pour venir à l'OM, malgré tout, tu as quand même au départ un certain niveau. Après, moi, je veux bien comprendre ce que a dit Flo Thauvin, puisque je l'ai écouté avec attention.
Il a dit c'est un groupe de qualité. Il y a d'autres problèmes.
Pas sur ça, sur le fait que il y a des profils pour jouer à l'OM et d'autres qui pourront jamais jouer à l'OM, c'est compliqué, voilà, ça on l'a dit. Donc c'est les principaux responsables.
Est-ce qu'ils ont des circonstances
après là où je comprends Jérôme, c'est que pour en arriver aussi bas aujourd'hui, c'est que il y a un autre truc qui s'est rajouté à ça, le fait que il y a eu un changement d'entraîneur, que le discours de l'entraîneur peut-être ne passe pas, que il y a un directeur sportif qui a dit qu'il partait, qu'il reste et qui s'est embrouillé, qui parle mal, qui a commencé à attaquer les mecs, qui les met au vert là maintenant. Alors là, on les met au vert là maintenant.
Donc les joueurs ont lâché alors. Donc les joueurs ont lâché.
Oui,
ils ont lâché. Non, mais là,
je pense que les mecs, ils sont plus là, quoi. Soit ils passent à leur futur club, soit ils passent aux vacances, ils sont
en train de préparer. Et à quoi ça sert de les enfermer à la commanderie ce soir, Eric?
C'est pas possible.
C'est punition, là. En fait.
Alors là, je comprends pas parce que si moi, je pense qu'ils ont lâché, qu'ils sont plus là et qu'ils sont en plus en frontal avec la direction, c'est-à-dire entraîneurs, dirigeants, qui les ont mis déjà ouverts la semaine dernière. Je pense que c'est pas le hasard ce qui s'est passé à Nantes par rapport à ce qui s'est passé après le match. C'est le match
contre Nice.
Non, quand ça c'est parti en vrille là.
Après Lorient,
on les a punis. Voilà, donc les mecs, comme ils sont plus là, comme ils ont pas la mentalité, comme ils s'en foutent de l'OM, les mecs, si c'est des joueurs normaux comme Dugas nous les présente, c'est-à-dire que tu as de l'amour propre, tu veux faire proprement ton boulot, c'est-à-dire que voilà, tu lâches rien, tu sais que tu es moyen, mais au moins tu veux être irréprochable sur la mentalité. Je pense que j'étais un joueur comme ça. Je pense qu'on était, il y a plein de joueurs comme ça sur, c'est-à-dire que tu fais toujours le maximum quand tu rentres sur le terrain. Et puis on n'a pas toujours été bon et on a eu des périodes difficiles aussi. Mais à la fin du match ou quand tu rentres chez toi le soir ou à la fin du mois quand tu prends ta paye, tu la regardes, tu dis bon, mais écoute, j'ai pas craché sur mon métier, mon club. Ouais. J'y suis pas arrivé. Ça peut arriver de t'y es pas arrivé. Tu perds, tu voilà. Bon, mais là ils sont plus dans ce truc là.
Oui, mais Eric, mais pour être
là où je suis d'accord avec Dugas, là où je suis d'accord avec Dugas, c'est que et c'est un débat entre nous depuis le début de la saison. Moi, quand j'entends que c'est l'entraîneur qui doit t'obliger à courir quand tu joues contre Liverpool ou contre Bruges,
non,
pour te qualifier en barrage de Ligue des Champions,
ça, je suis pas d'accord.
Ah oui. Voilà, c'est tout.
C'est
pour ça que moi je défendais entre guillemets, je défendais pas, mais j'attaquais pas Deux Herbies. Parce que pour moi, quand tu as cette chance-là de porter ce maillot-là et d'être peut-être en barrage de Ligue des Champions, tu fais pas ce qu'ils ont fait contre
Bruges.
Ils couraient pas non plus.
Tiens, accueillons Vincent, supporter de l'OM.
Salut Vince.
Salut l'équipe.
Salut Vincent.
Salut. Bon, et puis surtout il y a deux Marseillais, donc je suis très content de d'avoir Eric et
nous aussi on est content de vous recevoir et de parler de votre club.
Plaisir partagé.
Vous avez tellement dit deux choses. Déjà, je vais bien évidemment rester poli et calme, mais en fait
ça sert à rien de s'énerver pour eux.
Non, voilà Eric.
Gardons notre dignité.
J'ai vu des trucs passer, il reste 4 matchs, des mecs qui veulent monter à la commanderie, je sais pas quoi, enfin bon bref. Ça, c'est pas à souligner. Mais à 47 ans, je crois que depuis que je suis l'OM, je crois qu'on n'est jamais, et on creuse encore, on n'est jamais descendu aussi bas. Après, Eric, Christophe, vous a, en plus, vous avez porté le maillot, vous connaissez, et vous devez en parler entre amis, dehors, etc. Mais c'est plus que moche ce qui se passe. Et même l'année prochaine, comment on va repartir? Comment on va faire pour repartir correctement?
Ah, mais là, t'hypothèques l'avenir d'un club. C'est-à-dire que, c'est que t'hypothèques l'avenir d'un club, bien carrément. Sûr.
Oui, mais je veux rebondir sur ce que dit Vincent pour essayer de te rassurer. Alors, on prend l'exemple et le bon exemple et le meilleur exemple. Souviens-toi, en début de saison, Lyon, les problèmes. Oui. Mondeux, il descend en deuxième division. Plus de sous. Un dirigeant qui, Mondeux, il met la clé sous la porte parce qu'il a fait n'importe quoi. Une dame qui reprend le club, on ne sait pas d'où elle vient. À l'arrivée, elle se raconte que finalement, Madame Kang, qui est finalement et tout, erreur d'où ils sont aujourd'hui. Donc tu sais quoi, des fois moi je me demande si ce qui va se passer, c'est pas salutaire pour nous, parce que on a fait n'importe quoi. On avait des sous, on a fait n'importe quoi.
On vous le souhaite.
Mais Eric, enfin toute l'équipe, même un jour Eric, je t'ai entendu dire, on parle de la ferveur, parce que moi je me fais chambrer, etc. Je commence à baisser les yeux devant les copains, tu sais, quand je suis
par ça.
Il y a même des gars, ils m'ont envoyé un maillot de Paris, mais de la marque chinoise, hein, c'est pas le maillot officiel du PSG, je sais pas encore qui c'est, mais les mecs, ils m'ont envoyé un ensemble dans ma boîte aux lettres.
Bon, il est beau, hein, quand même.
Ça va loin, le chambrage.
T'as pas reçu le maillot du Bayern, non, par hasard, là, pour la semaine, non? Le
maillot du Paris Cano, non?
Bah, on voit lui, celui de l'Inter l'année dernière que t'as acheté, Eric.
Eric, tu as dit que tu vois des petits dans Marseille qui ont le maillot du PSG.
Ah, mais beaucoup! Beaucoup, je suis passé là le week-end dernier, il y en a plein.
Ouais, t'es passé, ça
fait j'ai promené mon chien sur la plage.
Mais pour finir, tu vois, nous entre potes quand même, j'ai un pote qui m'appelle tout à l'heure, il me dit, bon, on fait un bus, on fait un minibus, on est neuf, on monte au Havre. Je lui dis, j'ai pas envie, mais il me dit, viens, c'est pour l'ambiance. Bah ouais.
Ouais, et puis c'est une belle région en plus.
Pour entre copains, on va passer un bon moment. Je sais pas. Entre nous, je sais pas ce qu'on va voir là-bas.
Non, mais tu as raison, il faut le prendre comme ça. Tu pars en badrouille avec les potes.
C'est port du Havre.
Le foot devient prétexte pour faire une belle sortie.
On va plutôt voir Osiris en concert dans toute la France.
Si tu montes au Havre, arrête-toi au parc. Tu es un beau stade.
Vincent, là où tu as raison et là où malgré tout tu as raison de passer ce message-là, et nous il faut qu'on le fasse, ça sert plus à rien d'aller à la commanderie pour faire je sais pas quoi. Les mecs, ils s'en saucissonnent de nous.
Exactement.
Ils s'en saucissonnent, donc ils vont partir, et faisons en sorte que la prochaine saison se passe bien. Le plus important pour moi, c'est de trouver le bon coach, parce que c'est de lui que tout va découler. Comment ils sont pas aller chercher des directeurs sportifs
qui vont faire revenir leurs copains?
Le truc, c'est que arrêtons de faire venir un directeur sportif qui va faire venir son copain, qui va faire venir son copain adjoint.
Déjà, t'es en contradiction avec le nouveau président, Eric.
C'est vrai.
Parce que le président, il a dit le plus important, c'est le directeur sportif. Toi, tu dis le plus important, c'est l'entraîneur.
Pour moi, je le dis, je le répéterai juste.
Je suis d'accord avec toi.
Pour l'année prochaine, vu que tu vas être obligé de faire des efforts, perdre des joueurs et faire peut-être une mission un peu commando comme l'a fait Lyon cette année, voire même comme l'a fait Lens. Souvenez-vous, Lens en début de saison,
où ils sont
financièrement, les gars. Et qui c'est qui l'a fait? Vous le connaissez, vous le direz? Oui, on le connaît. D'ailleurs, c'est vrai que les gars, il a fait du bon boulot. Mais ceci dit,
là, il y a Fournier qui va peut-être arriver.
Il y a Pierre Sage qui est arrivé. Oui, mais rappelons-nous quand même les déclarations.
Fonseca,
forte quand même du président de Lens qui dit voilà, c'est fini, on a vécu au-dessus de nos moyens, il faut couper les vivres, il faut remettre tout à plat et tout. Alors, souvenons-nous, ça fait des déclarations, il dit
dans ces deux clubs qui peuvent être un exemple quand tu repars, regarde les coachs qu'il y a et regarde le travail qu'ils ont fait,
et on en reparlera de Lyon à 19h.
Magnifique les cas, le directeur sportif de Lyon, je le connais même plus du coup maintenant,
c'est Mathieu Louis-Jean.
Du bon boulot. Pardon.
Et le président Michael Garinger, de l'Olympique lyonnais, en dessous de Michel Kang qui a récupéré ce club. Dans un instant, on poursuit sur l'OM. Eric, désolé, encore 10 minutes à tenir. On va ouvrir le procès de Mason Greenwood et de son manque d'investissement. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Rotten.
18h32 sur RMC. On est là, on est bien. La deuxième demi-heure de Rotten sans flamme. Magnifique. Semaine magnifique, exceptionnelle avec la Ligue des Champions. Mais ce soir, on est en mode Ligue 1. On parle de l'OM sur la première demi-heure. On va continuer à parler de l'Olympique de Marseille et de Mason Greenwood dans un instant. Le procès de Mason Greenwood. On est avec Adrien Rabiot, avec Eric Dimeco et avec Benoît Adrien Boutron.
Adrien Rabiot. Qu'est-ce que il a confondu pourquoi. Duga avec Adrien Rabiot, mais c'est quoi
et c'est pourquoi parce que pourquoi je vais vous dire Duga et Eric, il y a Niki, il vient mon producteur, il vient là pendant la pub, là je sais pas ce qu'il vient foutre,
il dit voilà la liste
et tout, on met Rabiot, on gardera. Mais oui, bien sûr que tu gardes Rabiot.
Oui, on garde Rabiot. Il y a une surprise dans la liste. Hein. Oh, il y a un comeback incroyable. Rendez-vous 19h30 pour Rotten Sélectionneur. On parle de Mbappé dans un quart d'heure avec un journaliste de Marca, Pablo Polo, sur la tension autour de Mbappé après son escapade en Sardaigne, mais tout de suite, c'est donc le procès.
RMC, Rotten sans flamme.
Pourquoi dès le départ l'OM Champions Project?
Personne n'a dit ça.
Si, ils l'ont dit dès le départ.
Je veux voir la déclaration noir sur blanc.
Tu mens.
Non, c'est toi.
Tu mens. Il a dit on veut rivaliser.
C'est une légende urbaine.
On veut rivaliser.
C'est toi qui veux mentir
avec le Paris Saint-Germain.
Non, pas du tout.
Tu mens. C'est pas vrai.
C'est toi. Tu le sais que c'est la vérité.
Le procès de Rotten sans flamme.
On ne saura jamais qui a menti ce jour-là.
Qui a menti?
On ne sait pas. On va vérifier. On ne sait pas. Alors ça fait 2 mois qu'il n'a pas marqué avec l'Olympique de Marseille, Mason Greenwood, transparent samedi après-midi, c'est 15 buts en 30 matchs de Ligue 1 cette saison, c'est lui qui porte le club depuis son arrivée à l'été 2024. Son bilan global, je vous le redonne, 79 matchs disputés, 47 buts marqués, 16 passes décisives délivrées, mais ce qui pose problème en ce moment depuis 2 mois, c'est son attitude, totalement déconnecté, la tête ailleurs depuis des semaines. On ouvre le procès de Mason Greenwood ce soir et de son manque d'investissement avec 2 procureurs. Christophe Dugarry, bonsoir. Il est là. C'est Adrien Rabiot.
S'il est parti, c'est parce que c'est lui qui avait menti.
On a le résultat. Éric Dimeco est également procureur. Bonsoir.
Oui, présent. Bonsoir.
Bon, on a un avocat pour Mason Greenwood. C'est Jérôme Rotten. Bonsoir.
Bonsoir.
Et c'est Karim, supporter de l'OM, qui rendra son verdict. Salut Karim.
On connaît la plaidoirie, Jérôme. C'est la structure.
Bon, vas-y, Éric, prends la parole. Pourquoi tu attaques Mason Greenwood sur son manque d'investissement alors?
Alors ce qu'on voit là aujourd'hui, il est comme les autres, puisque je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde l'a lâché. Donc moi, c'est surtout, Greenwood représente un petit peu tous les maux de l'OM sur ces dernières années en réalité. C'est-à-dire que tu es obligé de recruter et de faire des coups sur des joueurs qui sont soit en échec, soit lui c'était autre chose puisque c'était extrasportif, il pouvait plus jouer en Angleterre, voilà. Donc, c'est-à-dire tu es obligé de faire des paris sur des joueurs qui peuvent être en échec ou avec des
soucis,
des revanchards, on va dire. Et quand tu te retrouves avec un joueur comme ça qui flambe la première année, dès qu'il est arrivé, il a flambé très 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 rapidement. Eh ben, tu es prisonnier en réalité parce que ce mec-là devient un joueur qui te fait gagner des matchs. Ça, c'est la réalité. Alors, il t'a pas fait gagner les grands matchs. Hein. Ça, c'est des reproches que je peux lui faire et que je lui ai fait quand on a fait le fameux débat. T'en rappelles sur De Zerbi qui avait dit c'est un futur Ballon d'Or ou c'est un potentiel Ballon d'Or.
C'est vrai que ça a été dit.
Sauf que le Ballon d'Or qui te fait gagner,
ça dépend que de lui.
Oui. Alors, ça dépend aussi que quand il joue contre Paris, Monaco, Lyon. Voire Lens, tu vois, qui marque
un
tu
peu
vois,
des
ça,
offres.
Ça dépend aussi de lui sur ces matchs-là, en effet, parce que malheureusement, il en a pas mis beaucoup contre ces équipes-là. C'est peut-être sa limite. Mais c'est surtout moi ce que je voulais. Et Duga partira peut-être sur une autre orientation.
Bon, j'espère.
Tu es obligé de passer les caprices d'un joueur comme ça. Souvenez-vous de Zerbi, il le met sur le banc déjà l'an dernier.
Hein. Bien sûr.
Une ou deux fois, hein, déjà, par rapport à son implication à l'entraînement. C'est-à-dire que ton leader technique, ton leader qui doit te faire gagner les matchs, il n'a pas une bonne attitude à l'entraînement.
Heureusement qu'il
l'a mis. Lui, il est obligé toujours de rifagner sur moi, là. Parce qu'on va faire pareil, nous aussi. Hein. Quand il va parler, lui, hein, on est capable de le faire, nous aussi. Hein. Donc, et tu es obligé de tout lui passer. Et quand tu lui passes tout, ça tire tout le groupe vers le bas. Et surtout, lui, comme il s'en saucissonne de nous, il est déjà parti. Donc, il nous chie dessus maintenant. Voilà. Donc, on est obligé de pleurer quand il n'est pas là. Semaine dernière, il n'était pas là. On a pleuré qu'il n'était pas là. Il est sur le terrain, il nous chie dessus. Voilà. Les mots et les problèmes de l'OM aujourd'hui. Voilà.
Bon, Duga, qu'est-ce que tu veux rajouter?
Oula.
Non, mais qu'est-ce que je veux rajouter? Moi, j'en appelle à la fierté. Voilà. Moi, j'en appelle à la fierté. Ce mec, il était au placard de chez Placard. Il a fait une grosse bêtise quand avant que l'OM le recrute. L'OM a pris des risques pour le recruter. Je pensais qu'il a eu une carrière assez, assez compliquée avec ce qui lui est arrivé quand même à ce garçon-là. Il aurait pu ne plus jamais rejouer au foot. Il aurait pu ne plus jamais rejouer au foot. L'OM l'a accueilli, un stade plein à chaque match, lui a souvent pardonné, lui a accordé des passes droits, les dirigeants. Tout le monde a tout fait pour mettre ce garçon dans les meilleures conditions. Et quand les matchs sont aussi importants, il te rend ça, il t'envoie ça à la tronche, il te renvoie ça à la gueule. Mais j'ai honte pour lui. C'est un minable, ce mec. C'est un minable. T'es le leader de cette équipe. Tout le monde attend après toi. Comme l'a dit Eric, quand t'es pas là, tout le monde pleure ton absence. Et ce que tu renvoies, ce que tu donnes après tous les sacrifices, c'est ça. Mais t'es un minable. Mais dégage. Dégage. Voilà l'argent que tu vas récupérer pour le club. Mais personne ne va te pleurer. C'est honteux ce qu'il a fait face à Nantes. Je l'ai vu marcher. Il y a des séquences où je regardais que lui. Que lui, et le mec, il fait semblant. Il en a rien à carrer. Mais je comprends pas comment il peut aujourd'hui avoir un avocat. Il doit être condamné, brûlé sur le bûcher, sans aucun avocat. Mais comment Jérôme peut m'expliquer aujourd'hui que c'est un problème de structure? Mais mon Dieu, c'est toi, ta conscience, ton métier, ton football, ce qui t'a fait rêver. C'est encore un jeune joueur. Ça t'a fait rêver d'être footballeur. La chance que t'as, c'est que t'as tout oublié, les sacrifices que t'as fait, le plaisir que t'as d'aller t'entraîner avec tes copains et tout ça, t'as plus envie de jouer, t'es plus un footballeur, t'es plus rien du tout. Quand t'as plus ce minimum de trucs qui te fait vibrer, qui te fait kiffer un peu dans le cœur, mais mec, justement, le baroud d'honneur, parce que tu sais que tu vas partir, ne renvoie pas ça.
Eh oui.
Ne renvoie pas ça, fais le minimum. Mais voilà, fais au moins semblant, j'en sais rien moi. Mais là il te renvoie, allez vous faire foutre comme ça à la figure. Mais c'est une honte absolue, c'est un minable. Bon. Voilà, qui s'en aille, on n'a plus besoin de lui.
Alors, il aura besoin d'un bon avocat, Maître Roten.
Oui, bon après, on peut en effet rester sur l'attitude des ploies. Moi, je défends pas l'attitude qu'il a eue sur le match de Nantes, comme la plupart des joueurs. Je suis pas là à te dire, oui, c'est magnifique, il a raison de faire ça. Mais c'est plus global. C'est quoi l'intitulé du...
C'est le procès de Greenwood et de son manque d'investissement.
Voilà, donc son manque d'investissement sur le match de Nantes, c'est pas le seul. Il est responsable, ok. Donc
pas plus qu'un autre.
Difficile de le défendre sur le match de Nantes
j'ai eu quatre, mais il y en a un, il a eu deux. Quoi.
Là, moi, je défends pas sur le match de Nantes.
Mais quand il avait quatre, Jérôme.
La preuve. Ouais, quatre, c'était pas mal. Ouais. Ça dépendait.
Il arrive avec le sourire, il me disait, mais papa, il y en a eu deux.
Quand il y en avait deux. En plus, les parents professeurs devaient être
comme quatre. Et la moyenne de classe est à 5.
Après, j'aurais aimé avoir des quatre quand j'étais noté à l'époque, mais j'y arrivais pas. J'étais toujours au-dessus. Par contre, non. En termes d'investissement sur les derniers matchs, on va dire, ouais, pas de problème. Mais ne remettez pas en question, si tu veux, tout ce qu'il a apporté à l'OM. Parce que j'ai l'impression que mes deux compères là, Eric et Duga, ils ont oublié. Parce que Eric, quand t'es capable de dire que Greenwood n'a pas fait gagner les grands matchs, déjà.
Ah bah oui. Le dernier grand match
qu'ils ont eu et qui a donné de l'espérance à l'OM où ils sont déjà vu qualifié, c'était en Belgique contre
l'Union Saint-Gilloise.
L'Union Saint-Gilloise. S'il n'y a pas Greenwood ce soir-là, je pense que vous avez la mémoire courte.
Et après, celui d'avant, c'était quoi alors?
Mais celui d'avant, c'était.
Regarde les stats. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a des auditeurs qui vont pouvoir aller voir les gros matchs de Ligue 1 et les gros matchs de Ligue des Champions. Et on les verra, les stats. Il a dû mettre deux buts et pénalty.
Il y a Anthony qui nous dit qu'il a marqué contre Lens, contre Monaco, contre le PSG pour le trophée des champions et une passe D contre le Real.
C'est déjà malhonnête de la part.
Et donc, on les a gagnés ces matchs-là, du coup.
C'est déjà malhonnête de la part d'Eric et du gars de dire, ouais, les gros matchs, surtout Eric. Les gros matchs. Mais heureusement que les gros matchs, t'as besoin d'avoir une équipe solide. Sinon, il s'appellerait pas l'Olympique de Marseille. Un seul joueur ne peut pas te faire gagner un match contre Monaco, contre Paris, contre Lyon, contre Lille en Ligue 1 ou Lens. Et en Ligue des Champions, encore moins. On l'a vu de toute façon. Parce que même la présence de Greenwood, et les exploits qu'il a pu faire, parce que il les a laissés en vie contre la.
Ça fait un moment qu'il en a plus fait d'exploits.
Excusez-moi. Mais juste après. Non, mais attends. Ce que je veux dire, c'est que Quand tu as un joueur comme Greenwood, aujourd'hui, tu regardes juste la qualité de Greenwood. On parle d'un joueur de foot.
Ouais, faut le traiter.
Alors moi, je veux bien. Non, mais moi, je veux bien que vous me parliez d'un marathonien.
Non, mais
d'accord.
Tu sais quoi,
mais tu sais quoi, mets un coureur à pied et lui, il va te donner plus. Mais par contre, il va te servir à rien. Vous avez parlé, vous déjà.
Pour répondre à Eric, ridicule. T'as ton équipe préférée du PSG. T'as des mecs qui sont aussi talentueux que coureurs. Tu ne sais pas ce qu'il a du talent. Il faut qu'il marche parce qu'il joue à l'OM. Il joue à Paris. Tu l'insulterais.
Je suis sûr que en fait, quand t'as une base d'équipe, un collectif qui est beaucoup plus solide, plus un entraîneur, un chef d'orchestre qui te, comme par hasard, regarde avec De Zerbi, on est tous d'accord pour dire que Greenwood était meilleur avec De Zerbi qu'avec Abi Bey. On est d'accord, ça, non? D'accord. L'année dernière, quand il est, on l'a sanctionné parce que Mehdi Benatia nous a expliqué qu'il n'avait pas la bonne attitude, la bonne ceci. Très vite, je vous le dis, hein, et vous le savez, et regarde les stats, Eric, parce
bravo,
que tu me renvoies
aux stats. Merci, alors
ils l'ont mis de côté, ils se sont dit, on va avoir une chance de se qualifier en Ligue des Champions, on va le remettre. Sur la deuxième partie de saison dernière, il a mis 15 buts. Mais foutez-le en l'air, vous avez raison. Mais si Greenwood n'est pas là, mais mon Dieu, mais vous finissez 15e au classement.
Juste un mot comme ça, je laisse notre auditeur trancher, puisque ce que dit Jérôme, moi, ça ne m'intéresse pas, puisque
mais
par contre, toi, tu as relayé des propos de supporters qui disaient il a marqué contre qui. Donc, si les supporters de l'OM sont contents d'avoir des joueurs comme Greenwood,
c'est pas pour ça qu'il est content. Il faut se rappeler factuellement.
Quand il dit ça, donc on se les garde et surtout on pleure plus derrière avec l'attitude. On pleure plus, voilà. Donc on se les garde. Mais moi, si les mecs sont contents d'avoir des joueurs comme ça, eh ben il y a pas de souci. On se les garde. Moi, tu sais quoi, ça m'enlève rien. Et continuons comme ça. On est sur le bon chemin. On est sur le bon chemin.
Karim, qui remporte le procès?
Son argument, il nous renvoie ses stats à la tronche.
C'est quand même mieux d'avoir un mec, Benoît,
qui l'a dit passe décisive. Il a fait une passe décisive à Madrid.
C'est important.
Il n'y a qu'un joueur qui te fait grimper au rideau sur ses prises de balles et tout ça. C'est lui à Marseille.
On n'a pas dit qu'il ne savait pas jouer au ballon. On a dit qu'il n'a pas la bonne attitude.
Est-ce que le juge peut rendre son verdict?
Que ton leader n'ait pas la bonne mentalité.
Alors, Karim, qui remporte ce procès animé?
Salut les gars. Écoutez, après avoir écouté, entendu un peu les débats, et je viens d'en discuter avec mon grand frère et mon neveu là justement. Moi, je vais tout à fait d'accord avec Jérôme, mais en même temps d'accord avec Christophe et Eric. Bon, moi, c'est match nul. Il a été extrêmement important pour l'OM. Là, maintenant, il sait qu'il va partir, il fait plus rien. Mais en toute franchise, je pense que moi, il y a match nul. On peut pas. Là, c'est impossible de
Karim, vous France, êtes trois. Décidez-vous quand même. Il faut un vainqueur dans ce procès, quoi. Soit Jérôme,
Karim,
soit la doublette
de Brian Dimeco.
Honnêtement, je vais plutôt partir sur l'argument de Jérôme Roten.
Franchement,
là pour le coup,
Karim,
c'est excellent. C'est-à-dire que le mec, il peut faire 3 mois de merde à la fin. S'il a fait 6 mois de bien, on dit ah ouais, mais tant qu'il y a 6 mois, ce qu'il a fait de bien et tout, c'était bien.
Vous avez oublié.
C'est à la fin, c'est le monétaire.
Bravo Karim, il vous a envoyé où alors Rabiot?
J'adore ton prénom Karim, c'est le prénom de mon beau-père.
C'est vrai.
Dire que c'est Greenwood qui a envoyé.
Tu voulais passer une grosse dédicace au club des sapins à mon petit neveu 10 qui est là, mon petit joueur de foot là.
On l'embrasse. On lui enverra un maillot du PSG. Un club qui gagne.
Merci Karim d'être venu. Victoire de Jérôme dans ce procès.
S'il avait Greenwood au PSG, il l'insulterait de tous les noms d'oiseaux. Et là, parce qu'il a l'OM,
il jouerait pas.
Il a du talent.
Allez, dans un instant, allô Jérôme.
Le pied qu'il a, il a une façon de toucher le ballon.
Par un marathonien, Kylian Mbappé.
On dirait Cherki par moment.
Jérôme, il est content. Si on le garde, il est content.
Bien sûr qu'il est content.
Le problème de Dugas, c'est
qu'il souhaite notre malheur, Jérôme.
Dugas n'a pas senti le rapport au ballon de Mason Greenwood.
Eric, si tu veux gagner la conférence Ligue l'année prochaine, il faut le garder.
Il faut se qualifier déjà, c'est pas fait.
Conférence Ligue, oui,
c'est pas fait.
Il faut se qualifier d'abord.
Il faut que Lens gagne la Coupe de France et tu termines 7e.
La 7e, c'est bien.
Mais c'est pas fait. Dans un instant, allô Jérôme, Pablo Polo, journaliste à Marca, sur la tension autour de
Pablo, on t'attend.
Allez, à tout de suite sur RMC.
RMC, 18h-20h. Roten sans flamme.
Benoît Boutron, Jérôme Roten.
18h50 sur RMC. On est là, on est bien dans Roten sans flamme. Eric Dimeco, Christophe Dugarry, même s'ils ont perdu le procès, sont toujours là, vous inquiétez pas, ils sont là jusqu'à 20h. On est avec Benoît Boutron. On est aussi dans un instant avec Pablo. Journaliste de Marca, il va venir nous parler de Kylian Mbappé. Après 19h, Benoît, on va parler.
Roten se chauffe. Ah ouais. Est-ce que la saison de l'Olympique Lyonnais est miraculeuse? On sera avec Edouard G, supporter lyonnais. On vous attend au 32-16. Un grand pas a été fait vers la Ligue des Champions, la qualif directe, puisque Lyon est troisième à deux journées de la fin, avec deux points d'avance sur le quatrième. Tout de suite, filons en Espagne.
RMC,
Roten sans
flamme.
La gestion des joueurs blessés est entièrement du ressort du staff médical du Real Madrid, qui détermine quand ils doivent être présents ou non. En dehors de cela, chaque joueur fait ce qu'il juge bon pour son temps libre et je ne peux pas intervenir là-dessus.
Hace lo que él considera oportuno y yo ahí no puedo entrar.
Allô Jérôme.
Voilà la justification d'Alvaro Arbeloa, le coach du Real, sur l'escapade en Sardaigne de Kylian Mbappé, blessé depuis 10 jours. Match contre le Betis, il est incertain pour le Classico dimanche, il a repris l'entraînement aujourd'hui. Polémique sur son week-end en Sardaigne avec sa compagne, alors que le Real dans le même temps s'imposait face à l'Espagnol Barcelone 2-0 grâce à un doublé de Vinicius. Ce séjour a donc été validé par le staff médical du Real. Colère des supporters, message sublimino des coéquipiers sur les réseaux sociaux. Forte crispation autour de Mbappé. Accueillons donc Pablo Polo, journaliste à Marca, pour en parler avec nous, Jérôme.
Salut Pablo.
Salut.
Bienvenue Pablo. Bienvenue Pablo.
Bonjour. Bonjour. Merci.
Bon, bah, à chaque fois que tu viens dans Routine sans flamme, c'est pour parler de Kylian Mbappé.
Il y a une histoire.
Non, il y a une histoire. Ouais. Alors, tu peux nous raconter comment...
Est-ce qu'on est très fâchés en Espagne?
Ouais.
Avant, c'était Karim Benzema, maintenant c'est Kylian Mbappé. Ça,
ouais, exactement. Ça.
Est-ce qu'on est très fâchés alors? Ouais.
Non, je dis, bien sûr qu'ici à Madrid, ça fait des bruits, toute cette histoire de Kylian. Et bon, à mon avis, c'est vrai qu'il y a peut-être que c'est Kylian s'est éloigné un peu de, s'est éloigné physiquement du Real, parce que c'est déjà deux déplacements durant un mois et demi. Son déplacement à Paris pour se récupérer des blessures dans les genoux, maintenant, et son déplacement pour à l'Italie. Alors, il y a bien évidemment une prise de distance physique, mais peut-être que si un peu émotionnel. Un peu émotionnel aussi, parce que on voit que Kylian, il est déçu, comme tout le monde, au Real, parce que c'est sa deuxième année sans titre. Tout le monde est déçu. C'est vrai qu'il avait l'autorisation du club pour se déplacer. C'est vrai, comme dit Arbeloa, qu'il y a un protocole qui est fixé pour le médecin et qu'il avait bien sûr l'autorisation pour partir. Après, est-ce que c'est une décision intelligente? Est-ce que c'était plutôt plus facile de rester et montrer que vous êtes avec le Real dans des moments difficiles? Là, c'est une stratégie que bon, il y a des gens qui seront d'accord et des autres qui ne seront pas d'accord. Mais c'est évident qu'il faut s'y relativiser, à mon avis. C'était une situation compliquée pour le Real. Et Vinicius a pris, je pense, cette responsabilité dans les groupes, au niveau de gérer un peu plus le groupe. C'est l'autre star du Real. Et par contre, Kylian Mbappé, c'est vrai qu'évidemment, les chiffres sont de son côté. Je pense que bien évidemment, si vous regardez les chiffres,
41 buts, 41 matchs.
Ouais. Voilà, c'est mettre en débat ça, c'est un peu à mon avis ridicule.
Pablo, toi qui es un spécialiste du Real, de ce grand club espagnol et de tout ce qui est fait autour de cette immense institution qu'est le Real Madrid, comment tu interprètes justement les messages subliminaux des joueurs sur les réseaux sociaux, la photo de Bellingham, une vraie équipe, les commentaires de certains joueurs et certains anciens joueurs comme Karim Benzema? Est-ce que c'est une pique directe pour Kylian Mbappé, d'après toi?
Je ne vais rien vous confirmer que c'est comme ça, mais...
Et comment tu l'interprètes, toi?
J'ai l'impression un peu, j'ai l'impression. C'est évident que envoyer ces messages-là juste quand Kylian n'est pas là. Et
je précise pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une photo de toute l'équipe réunie avec des flammes et puis tous les joueurs qui commentent en dessous en disant une vraie équipe, etc. Quoi, voilà.
Ouais, c'est évident à mon avis que c'est un message
ils font avec la saison de merde qu'ils font, ils font des photos avec des flammes et tout, mais ah, ils sont bons ceux-là.
Ouais, bah, justement, Pablo reste avec nous, mais est-ce que d'après vous, Jérôme, Duga, Eric, est-ce que c'est une erreur de la part de Mbappé de s'être exilé en Sardaigne sur quelques jours alors que la saison n'est pas finie?
Moi je sais pas si c'est une erreur, mais les joueurs du Real ils sont bien gentils, ils font une saison de daube. et ils font une photo dans le vestiaire, machin et tout. Et après, donc, et c'est la faute à Kylian Mbappé parce qu'il est parti en Sardaigne, parce qu'il y a un mauvais état d'esprit, ainsi et là.
Bah, la preuve que non, ils ont gagné.
Ouais, Combien de fois il les a sauvés cette année.
Ouais, non, mais ils n'ont pas autre chose à foutre surtout. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle vit le Real Madrid aujourd'hui, le problème du Real Madrid, c'est parce que Mbappé, il est parti en Sardaigne avec sa copine. Mmh. Non, mais j'espère que c'est autre chose. Qu'ils font un autre diagnostic de leur saison et des problèmes du Real Madrid que ça. Le problème du Real Madrid, c'est pas le milieu de terrain. C'est juste qu'il a Mbappé une nouvelle fois qui part.
Enfin, c'est peut-être symptomatique de ce qu'on pense dans le vestiaire du Real.
Symptomatique. Qu'est-ce que ça veut dire?
Si tu tweets ça, il est pas là, c'est que tu veux faire passer un message.
Tu veux faire passer un message. Et bien, tu sais ce que tu fais si tu veux faire passer un message? Puisqu'ils sont tous sur les réseaux sociaux, ils ont que ça à foutre sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'ils passent leur vie. Et bien, tu dis les choses clairement. Ou alors tu vas lui dire à Mbappé, ou alors tu vas voir le président. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Des messages subliminaux aussi, on en est, c'est ça? Symptomatique, subliminal, le message qui est passé, sous-entendu, qu'il faut interpréter. Mais mec, si t'es un investisseur, si t'es un joueur du Real Madrid, si t'es un grand joueur du Real Madrid, parce que pour moi, les joueurs du Real Madrid, ça doit être tous des grands joueurs, ou des joueurs en devenir, ou tout ce que tu veux. C'est une statut, c'est quelque chose de particulier quand tu portes ce maillot, c'est quelque chose de différent que tu porteras pas ailleurs. T'as au moins les coronaises d'aller voir ton partenaire et lui dire écoute moi mec, ce que tu fais c'est pas bien, mais là personne va le faire.
Ça on sait pas.
J'attends de voir.
Ouais Pablo.
Ouais Pablo.
Mais en tout cas, à mon avis, il faut dire clairement, il y a deux choses ici. À mon avis, si c'est vrai qu'il y a l'autorisation du Real, est-ce que le Real est d'accord? Bien sûr, je pense que le Real aurait préféré que le joueur reste parce que ça va faire du bruit.
Oui.
C'est normal, c'est pas une décision qui pour le Real c'est positif. Mais après, il faut penser une autre chose. Est-ce qu'il y a un problème au Real? Parce que on veut pas oublier que faut pas focaliser en Kylian Mbappé. Et que Vinicius, il est sorti du terrain et il a montré face à contre Xavi Alonso au Clasico parce qu'il avait été il partait sur le banc. Alors, est-ce qu'il y a un manque d'autorité, il manque une référence, il manque l'institution premièrement? Ou c'est les joueurs qui demandent et qui font qu'est-ce qu'ils veulent. Ça, c'est le problème. Qu'est-ce que le Real veut faire? Est-ce qu'il manque un entraîneur qui est capable de.
Mais Pablo, et ça.
C'est pas une question de Kylian.
Non, c'est pour ça. Après, Kylian Mbappé, il fait ce qu'il veut de
est-ce
sa
que
vie.
C'est une erreur, Jérôme.
De la part
d'être
de Kylian.
Parti en Sardaigne, non, mais, en pleine saison, comme
après,
ça.
Moi, c'est une erreur s'il veut que son image, elle change. Là, apparemment, il en a rien à faire, Kylian. Et Kylian, lui, qu'il aille en Suède, qu'il aille en Sardaigne ou qu'il aille aux États-Unis, il en a rien à faire. Lui, il se dit pas, tiens, j'ai du repos parce que je suis blessé. Si je pars là, bien sûr que de toute façon ça va faire du bruit. Ça va se savoir et se mettre dans une bulle, c'est pas possible quand tu t'appelles Kylian Mbappé aujourd'hui avec la médiatisation. Mais
s'il veut être discret, Jérôme, non, mais il est discret.
Du gars, t'as raison, mais j'en ai rien à faire. Moi, il fait ce qu'il veut. Ce que je veux dire, c'est que plutôt que rester chez lui, à rien faire, à se reposer avec sa copine, il s'en va. Sardaigne. Bon, bah, écoute, moi, ça me dérange pas.
C'est devenu un club de schizophrène.
Il autorise à partir
Mbappé, mais ils auraient aimé qu'il parte.
Mais Dugas,
ça plaît pas aux joueurs, qu'ils ont qu'à lui dire.
Ben oui, en fait, le truc, c'est que aujourd'hui, tu vois la déclaration de l'arrière-gauche, là, qui joue jamais, en plus,
oui, Franck Garcia, ouais.
Voilà.
Un podcast qui a dit, Pablo,
il a donc dit, oui, quand Kylian y joue, on est déséquilibré. Qui court plus. Non, mais attends.
C'est pas ses pieds à lui qui sont déséquilibrés.
Je pense qu'il manque d'équilibre, oui.
Mais imaginez que le Real est déjà, il a gagné déjà le championnat espagnol et il manque 15 jours pour jouer la finale de la Champions League. Et Kylian, il a une petite blessure maintenant et il est parti. Mais c'est plutôt le scénario, le moment où là, il a perdu toutes
ses compétences.
Si le Real est maintenant déjà champion d'Espagne et il sera déjà qualifié pour la finale et Kylian il part ce week-end, je pense que.
Et c'est pas pareil, bien sûr. Parce que c'est parce que.
Oui, mais sauf que Pablo, à l'époque, je me souviens aussi, il y avait quelques polémiques sur Cristiano Ronaldo qui partait par moment au Maroc.
C'est vrai. Kylian Mbappé et Beckham, ils prenaient leur avion privé chaque week-end.
Ben c'est pour ça.
Et Yamal, il est blessé en ce moment, il est où?
Yamal, il est à Paris, il était à Paris le week-end dernier.
Bah ouais,
Yamal,
il y a des polémiques.
Ouais, mais c'est fin de saison avec le Barça. C'est fin de saison avec le Barça.
Il n'y a jamais de polémique avec Yamal.
Pour le Classico.
Il n'y a jamais de polémique avec Yamal.
Ça, c'est vrai. Merci Pablo d'être venu dans Rotten Sans
Flamme. Merci Pablo. En tout cas,
Classico dimanche à Barcelone.
C'est vrai que les Espagnols,
un nul sacrerait le Barça.
Ils l'ont dans le viseur. Donc ils vont y aller. Moi, je te dis juste ces vacances comme ça, avec tout ce qui se dit. C'est sûr que si tu veux corriger ton image, il faut pas donner à manger à tes détracteurs. Mais pour autant, ce qu'il a fait, c'est pas dramatique, quoi. Tu vois, moi, je vois pas le mec qui se repose. Il est blessé, il se repose, il prend du bon temps avec sa copine. Okay. Écoute, ce qu'on va lui demander, c'est quand il sera sur le terrain, c'est d'être bon et de marquer des buts, non?
Allez, dans un instant, Rotten se chauffe.
Avec le Real, il le fait souvent.
On reparle de l'Olympique Lyonnais. Est-ce que la saison est miraculeuse? 32-16, supporter lyonnais pour être avec nous. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Rotten sans flamme.
Vous avez aimé la première partie? Alors écoutez tout de suite la deuxième partie de Rotten sans flamme.